d'information, Mohamed Oumfa, j'étais ravi de vous le présenter. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans l'Amérique et vous. Eric Manilatiba en votre compagnie, Lionel Lunanila Garima assure la mise en onde. Ce soir, la crise politique en Côte d'Ivoire vue par la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Le président Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé, et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, se sont rencontrés mercredi en vue de mettre fin aux violences électorales qui ont fait déjà 85 morts en 3 mois. Il s'agit de la première rencontre depuis l'élection présidentielle du 31 octobre, contestée et boycottée par l'opposition. Le PDCI exige notamment la levée des blocus des résidences et la cessation des poursuites judiciaires contre les responsables de l'opposition. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Encore une fois, bienvenue à l'écoute. La crise politique en Côte d'Ivoire, vue par la diaspora ivoirienne aux États-Unis, c'est notre objet de discussion en ligne. L'ambassadeur Bamba Youssoufou Joseph, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Bienvenue. Docteur Jean-Claude Jereke depuis Philadelphie, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Enfin, Nyaka Lagoke, il est en Pennsylvanie. Bonsoir Nyaka.
Bonsoir Eric.
Ambassadeur Bamba, est-ce que le président Ouattara est à la quête de sa légitimité à travers cette première rencontre avec l'ex-président Bédié qui dirige le Conseil national de transition CNT censé remplacer M. Ouattara?
Je ne saurais répondre à cette question. Je crois qu'il faudra la poser à M. Ouattara lui-même. Ce que je sais, c'est que la candidature de M. Ouattara étant illégale, en vertu de l'article 55 de notre Constitution, c'est cette candidature illégale qui malheureusement a été validée par le Conseil constitutionnel qui, le faisant, s'est parjuré et qui a créé la crise que nous connaissons en ce moment. Si les uns et les autres avaient respecté notre loi fondamentale, qui, dans son essence, par rapport à ces articles, c'est l'article 55, qui est une reprise de l'article 33 de la Constitution de 2000, nous n'aurons pas eu cette crise, parce que cet article renferme le cœur même de notre ancrage démocratique, qui est la limitation d'un mandat pour permettre justement l'alternance démocratique, comme on le voit dans les nations démocratiques dignes de ce nom. C'est ce que je peux répondre à ce stade.
Les autres vous diront que si l'opposition avait participé à cette élection, il n'y aurait pas cette crise.
C'est un jeu d'enfant. Ne rentrons pas dans le jeu d'enfant. L'opposition ne pouvait pas participer à cette élection qui était truquée d'avance, qui était complètement non crédible, puisque l'objectif, c'est de faire des élections libres, transparentes, équitables, inclusives et apaisées. Tel n'était pas le cas. Ces conditions n'étaient pas réunies, particulièrement la composition de l'organe électoral qui est la commission électorale indépendante. Elle dit, on dit bien indépendante, elle doit être indépendante, c'est-à-dire impartiale, elle doit être également consensuelle et ne subir aucune influence, que ce soit. Or, tel n'est pas le cas. Cette commission électorale est absolument inféodée au régime en place, au pouvoir. Quand même, il ne faut pas demander à l'opposition d'aller se faire harakiri. On aura une élection dont le résultat est connu d'avance parce que les règles de jeu ne sont pas justes et qui plus est, il y a des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a fait des injonctions à l'État de Côte d'Ivoire et le président Hassan a dit qu'il n'entendait pas les appliquer alors que dans un État de droit, la Constitution ivoirienne nous prescrit également dans son article 155 les décisions de justice sont exécutoires partout, mais au-dessus de la loi.
Jean-Claude, votre réaction?
Le seul responsable de cette crise, c'est Ouattara. Parce que, comme il a bien rappelé, notre Constitution ne l'autorise pas à briguer un troisième mandat. Par ailleurs, il faut savoir que le 5 mars 2020, devant les sénateurs et députés de la Nation, Ouattara avait dit qu'il ne se représenterait pas.
Et je me rappelle, Macron l'avait chaleureusement félicité pour ça. Et puis, le 6 août, patatras, M. Ouattara dit qu'il se représente. Donc, la faute n'est pas seulement par rapport à la constitution, par rapport au droit, mais elle aussi morale, en ce sens que M. Ouattara ne respectait pas sa parole.
Il avait respecté sa parole en mettant en avant Feghon Coulibaly.
Oui, mais c'est un argument qui ne tient pas parce que Ouattara, il faut le rappeler, il avait dit avant la mort de Ghosn que son parti avait des gens, plusieurs compétences. Vous voyez, donc si Ghosn n'est pas là, s'il est décédé, Ouattara pouvait très bien trouver quelqu'un pour le remplacer.
Yaka, quelques jours avant l'élection, le président Ouattara avait proposé à l'opposition de remanier la commission électorale, mais l'opposition n'a pas voulu suivre son chemin.
Ah, il faut savoir que M. Ouattara a changé les règles du jeu, que les règles du jeu n'étaient pas claires, n'étaient pas transparentes, que les règles du jeu étaient en sa faveur. Le processus électoral était biaisé depuis le début, et donc quelques petits aménagements de dernière minute, c'est pas sérieux. Et je crois que c'est pour cela que l'opposition n'a pas voulu composer avec lui ce sujet. On sait par exemple que la caution est passée, je crois, de 40 000 dollars à 200 000 dollars et qu'il a décidé, lui, pendant le confinement, de changer le processus électoral. Et puis, donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte et c'est pour cela que l'opposition a boycotté les élections.
Jean-Claude, l'Union africaine et la CEDEAO ont félicité mardi le président Ouattara pour sa réélection. N'est-ce pas un message envoyé à l'opposition pour reconsidérer sa position?
Effectivement, ces deux organisations ont félicité Ouattara, mais à mon avis, elles ont tort. Elles sont dans le tort. Elles donnent raison, ces deux organisations, à ceux qui pensent que ce sont des syndicats de chefs d'État, des syndicats, des organisations qui sont plus au service des présidents que des peuples africains. La même chose avait déjà eu lieu en Guinée avec Alpha Condé. Donc, je le répète, c'est une honte. C'est une honte parce que nous savons que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait enjoint le gouvernement ivoirien à reconsidérer les décisions qu'il avait prises concernant le président Gbagbo, Guillaume Soro, la réforme de la commission électorale, dont l'ambassadeur Youssouf rappelait tout à l'heure qu'elle n'est ni équilibrée ni indépendante. Donc, cette cour-là, qui est l'émanation justement de l'Union africaine, elle dit quelque chose, Ouattara, il fait fi de ça, et puis après, elle vient le féliciter. Vraiment, il faut avouer que c'est honteux et c'est indigne.
Ce n'est pas la cour qui l'a félicité, c'est l'Union africaine.
Oui, mais je dis que la cour africaine est l'émanation de l'Union africaine. Donc, on ne peut pas en même temps demander à quelqu'un de réformer telle ou telle chose, et puis, par derrière, à venir le féliciter. Il y a une incohérence.
Ambassadeur Mbamba, oui. Vous êtes diplomate. Quel est le sens que vous donnez à ce soutien de l'Union africaine, de la CEDEAO, au président Ouattara?
Mais j'ai fait écho de la grande honte, c'est du grand scandale que ces deux organisations se sont malheureusement illustrées. C'est un jour d'infamie pour l'Afrique. Ces organisations régionales et sous-régionales qui ont été portées sous les fonds baptismaux par les pères fondateurs de l'Afrique indépendante, mais ils avaient une ambition pour que l'Afrique rentre dans le Conseil des Nations par l'ancrage de la démocratie de l'État du droit. Bien sûr, au départ, il y avait les partis uniques parce qu'il fallait former les nations. Mais au fur et à mesure, après la deuxième décennie, mais la démocratie a éclos parfois en Afrique. Et donc, ces institutions sont bonnes, et je le répète. Mais aujourd'hui, nous avons une faillite du leadership au niveau de ces organisations. Voici des hommes qui sont parvenus, qui sont à la tête de ces organisations, qui ne sont pas du tout fidèles à leur serment et qui font du copinage. Mais malheureusement, le dommage, c'est que c'est le peuple africain, c'est le peuple africain qui paye le plus fort à cause de ces trahisons, de ces dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête d'une organisation. Sinon, je peux rapidement rappeler les objectifs de la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance. Son objectif 2 dit promouvoir et renforcer l'adhésion au principe de l'état de droit, fondé sur le respect de la suprématie de la constitution et de l'ordre constitutionnel dans l'organisation politique des États. 2 et 3, promouvoir la tenue régulière d'élections transparentes et libres, juste afin de signaliser, etc. etc. Je peux aller et la placer bien haut. Pareil, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionner le protocole relatif aux mécanismes de prévention et de gestion régionale des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, exactement dans son préambule. Son préambule 8, il dit la CEDEAO est ici, ayant à l'esprit la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et des autres instruments internationaux des droits de l'homme par la majorité des États membres de la CEDEAO, et rappelle les principes à son article 1er, rappelle pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, la valorisation et le renforcement des parlements et de la garantie de l'unité parlementaire, l'indépendance de la justice, le juge est indépendant dans la conduite de son dossier et pour notre décision, la liberté des barreaux. Alors, vous voyez, tous les textes existent. Voilà pourquoi les textes sont bons. Mais qu'est-ce qui empêchait ces dirigeants, enfin, ces responsables, ces fonctionnaires là, de la CEDEAO, l'Union africaine, d'examiner, d'analyser la crise ivoirienne, la crise électorale ivoirienne, à la lumière de ces textes-là. Ils étaient tranquilles. Mais ce voit-il, les textes disent qu'il faut la séparation des pouvoirs. Vous n'avez pas d'incursion à faire dans le judiciaire. Les textes disent que c'est la suprématie de la Constitution, la loi fondamentale. Monsieur Ouattara, vous n'y a pas de fait. Les États membres, en ratifiant ces différents protocoles-là, ces différents instruments juridiques, adoptent l'attachement à la justice internationale. Monsieur Ouattara, voici les engagements, il faut les exécuter. Mais ça n'est coûté quoi de le dire. Ils ne l'ont pas fait. Donc, mon collègue a parfaitement raison. Ils font honte à l'Afrique. Et ceux-là, ils seront comptables devant l'histoire des peuples africains. Ça, je vous le garantis.
Yaka, le PDCI insistait sur plusieurs préalables avant cette rencontre. Rien de concret communiqué à l'issue de ce tête-à-tête, sauf qu'ils ont pu, je cite, « briser le mur de glace et le mur de silence ». Est-ce le début d'un long processus qui pourrait durer longtemps avant que la situation ne s'apaise d'une manière effective?
La CEDEAO, l'Union africaine, les organisations régionales en Afrique sont à l'image de l'état de l'Afrique, de l'état de démocratie de l'Afrique et de l'état du néocolonialisme en Afrique. Alors, ce sont des institutions qui sont instrumentalisées par les Occidentaux et qui sont dirigées par des gens qui pensent toujours servir les intérêts des Occidentaux ou d'une certaine élite politique corrompue au détriment des intérêts du peuple. Et c'est d'ailleurs, on a d'ailleurs vu que pendant la crise malienne, les leaders de l'opposition parlaient de la CEDEAO des peuples, et donc c'est ce que les gens veulent voir, au lieu de voir une institution instrumentalisée par des leaders politiques qui sont toujours aux antipodes des intérêts de leur peuple. Ainsi dit, pour répondre à la question, oui, si les choses se passent bien, c'est le début d'un long processus. Voilà, donc M. Ouattara veut gagner du temps, les Occidentaux, la France, les États-Unis. C'est ça la réalité. Quand Bidi était dans sous le blocus, et ce sont eux qui ont tout fait, on souhaitait que Bidi renonce aux CNT, et en d'autres termes que Bidi reconnaisse que Alassane Ouattara est le président, et qu'il rentre dans un processus de négociation afin de sortir de la crise. Mais tout cela, à la fin, M. Ouattara devrait pouvoir rester le président. Et M. Ouattara veut gagner du temps, ce qu'il n'a pas voulu faire avant l'élection. Il veut gagner du temps. Et donc, je pense que ça va être long. Et pour moi, c'est encore un piège dans lequel l'opposition ne devrait pas tomber, dans la mesure où les Ivoiriens veulent mettre fin au régime de M. Alassane Dramane Ouattara dans un contexte de processus révolutionnaire du Mali, du Nigeria et en Côte d'Ivoire. Et donc, on espère que ceux qui ont pris la rue le feront. Et ils l'ont fait avant les opposants. Et donc, ils le feront et ils vont essayer d'animer un mouvement totalement indépendant des objectifs de l'opposition.
Jean-Claude, quelle question? La même question.
Oui, je suis parfaitement en phase avec Yaka, en ce sens que c'est le peuple, finalement, à mon avis, qui va faire sa révolution comme au Mali. Et d'ailleurs, le Chilien Alain le disait, il disait que c'est le peuple qui font l'histoire. Et les Ivoiriens ont commencé à faire l'histoire. Depuis le 13 août, ils n'ont pas attendu le mot d'ordre des partis politiques qui, à mon avis, ont monté leurs limites. C'est vrai, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ont monté leurs limites. Et je reviens encore à ce que disait Nyaka. Je pense que, d'abord, je veux corriger quelque chose. Bédié était à cette rencontre avec Ouattara en tant que président du CNT, le Conseil national de transition, pas en tant que président du PDCI. Donc, cela dit, je pense que ça a été une erreur, à mon avis, qu'il ait à cette rencontre, sans Pascal Affingué, sans Maurice Kakou ou Vitaouye, qui sont emprisonnés, Mabi Tokus qui est traqué actuellement. Je pense que ça a été la première erreur. La deuxième erreur, c'est justement d'oublier que, en fait, c'est un piège. Parce que Ouattara, qu'est-ce qu'il veut? Ouattara veut être reconnu comme président. Et je crois que c'est un piège, hein, qu'il a tendu à l'opposition et c'est dommage que Bédié soit tombé dans ce piège-là. Mais moi, je crois que le peuple va bientôt reprendre les manifestations parce que je pense que c'est la seule façon aujourd'hui de chasser ce monsieur qui a pris le pays en otage. Voilà, il humilie les Ivoiriens, les terrorise. Il faut que le peuple continue les manifestations.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Et vous, depuis Washington DC, Eric Manirakiza, toujours avec vous, pour discuter de la crise politique en Côte d'Ivoire, vue par la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Le président Ouattara a assuré que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Et il a dit, je cite, « Nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il soit ainsi. Ils vont se rencontrer dans les prochains jours. » Ambassadeur Bamba, quelles sont les concessions requises ou possibles de part et d'autre pour recouvrer la paix et la cohésion sociale émaillée par cette élection présidentielle du 31 octobre?
Tu rends hommage à cette jeune dame ivoirienne, Madame Fichéry Balé, qui a parlé au nom de tout le peuple ivoirien. Elle est aujourd'hui dans les geôles de M. Ouattara. Et mes pensées vont vers elle et nous prions nous, et nous dénonçons. Et nous exigeons sa libération sans condition. Ça, c'est la première chose. Mais lorsque la communauté internationale, à travers les ambassadeurs des États-Unis, de la France et de l'Union européenne, invite à un dialogue entre les différents protagonistes, notamment le président Bédié, en tant que président du CNT, devrait répondre autrement au risque de se faire accuser d'être celui qui veut mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Ils oublient qu'il y a des microbes qui sont instrumentalisés par le régime LHT pour pouvoir casser les manifestants aux mêmes nuits qui font les mouvements pacifiques pour exiger le respect de la Constitution. Deuxième chose, dans la tradition africaine, en Afrique, quelqu'un vous demande qui veut vous parler. Partout en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Sud, certainement du Nord aussi, vous accédez à sa demande. Mais ça ne vous engage à rien. Le président Bédié a accédé à cette demande et il a dit, il a écouté. Il a écouté, il a pris acte. Et si vous voyez bien le communiqué, il a dit qu'il y a une réunion du mai le 13, la plateforme de l'opposition, et ils vont se concerter pour définir la conduite à tenir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a rien. Et justement, les pièges. C'est de quoi? C'est de casser l'union sacrée de l'opposition, c'est de casser le mouvement populaire de contestation qui gagne une intensité. C'est toutes ces choses-là. Alors, je ne vois pas que la dynamique change à mon niveau. La dynamique ne changera pas. La paix, c'est ce que nous voulons. La paix a été rompue par le viol de la constitution de M. Ouattara. Que M. Ouattara. Qu'on annule cette élection et il y aura la paix tout de suite. Nous allons, et d'ailleurs, c'est ce que l'opposition a toujours demandé avant le 31 octobre. Mais malheureusement, il n'a pas voulu. Il a fait son passage en force. La paix a été rompue. Mais si on doit la reconstruire, mais les ingrédients sont là, les éléments sont là. C'est le diagnostic. Et là, le diagnostic. On a fait l'autopsie et on sait ce qu'il ne faut pas faire. Si on a une chance pour refaire encore l'histoire, on l'a refait, mais maintenant que M. Ouattara se retire, que la communauté internationale soit sincère et courageuse pour lui dire M. Ouattara, c'est vous le problème, retirez-vous, et nous allons construire la paix.
Eric.
Oui,
Eric.
Y a ça.
Ah, c'est-à-dire que, oui, on veut la paix, mais ce que M. Ouattara a fait ces deux ou trois derniers mois en Côte d'Ivoire, en fait depuis le mois d'août, mais c'est terrifiant. Les Ivoiriens croyaient avoir tout vu avec les bombardements aériens faits par les Français. Et puis par l'ONU, par les forces de l'ONU en 2011, soutenant la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara contre les troupes de Gbagbo Olorun. Mais de quoi il s'agit? Monsieur Alassane Ouattara a au moins quatre groupes armés, les anciens rebelles dans l'armée. Et nous avons aussi des démobilisés qui ne sont plus dans l'armée, mais qui ont leurs armes. Et nous avons les dozos, et qui ont encore les armes de guerre. Et nous avons un groupe, il y a un autre groupe qu'on appelle les microbes. donc des enfants soldats, des bandits, et qui ont des machettes, et qui vont et qui découpent en plein jour à la machette à des gens qui sont en train de manifester dans les rues. C'est des choses que nous n'avions jamais vues en Côte d'Ivoire. C'est terrifiant. Même si les médias internationaux n'en parlent pas, nous les Ivoiriens, on le vit. Il y a trois jours, un bateau où il y a eu plus de 35 morts, où il y a eu plus de près d'une centaine de blessés. Et on a vu quelqu'un couper la tête de quelqu'un et tout était quelqu'un. Comment on dit ça? Comme si la personne jouait au football et on a vu la tête rouler. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ça là, comment est-ce qu'on peut battre une paix avec un tel individu? Voici toute la question. Surtout qu'il a l'intention d'utiliser les moyens de la violence pour se maintenir au pouvoir, comme il a utilisé les moyens de la violence pour que sa candidature soit acceptée. Et les Ivoiriens et les opposants ont le droit de revendiquer une nouvelle élection, comme lui, hier, a revendiqué une autre élection quand il avait été exclu du processus électoral et quand Gbagbo Laurent était devenu président.
Jean-Claude, au niveau de la diaspora, y a-t-il une plateforme pour, contribuer d'une manière concrète avec des propositions concrètes en vue d'œuvrer justement à la paix dans votre pays?
Oui, tout à fait. Moi, je fais partie d'au moins deux plateformes ici aux États-Unis et au Canada. Donc, nous réfléchissons, nous nous retrouvons. Pas plus tard qu'hier, on s'est retrouvés pour réfléchir. Et les résultats de nos réflexions, nous les acheminons à Abidjan. Il y a, je crois, une dizaine de jours, nous avons eu une rencontre avec Pascal Afingessan sur Zoom. Ouais, donc, on est effectivement en contact avec Abidjan. Nous réfléchissons et nous faisons des propositions. Et dans cette plateforme, nous avons dit que le problème, c'est Ouattara. C'est pas l'opposition. Parce que je trouve qu'il n'est pas juste, il n'est pas honnête de renvoyer l'opposition et Ouattara dos à dos. Le problème, c'est Ouattara qui l'a créé. Parce que la Constitution lui interdit de briguer un troisième mandat. Et je pense que si on se dit démocrate, en France, ou en Angleterre ou aux États-Unis, eh bien, il faut appliquer ça. Donc, c'est à Ouattara qu'on aurait dû parler. Ce n'est pas à l'opposition. Vous voyez, et comme Yaka l'a bien dit, les gens manifestent parce que la Constitution leur donne ce droit-là. Les gens manifestent comme le troisième mandat. Mais ces gens-là, ils manifestent pacifiquement. Ouais, donc, nous, dans nos plateformes, nous disons que le problème, c'est Ouattara. Et donc, il faut que les gens prennent leur courage à deux mains pour lui dire qu'il n'a pas le droit d'être candidat après deux. À mon avis, moi j'appelle ça deux frauduleux mandats.
Il y a 10 ans, la crise post-électorale de 2010-2011 avait fait 3 000 morts et 300 000 réfugiés et 1 million de déplacés internes en Côte d'Ivoire, selon l'OHCR. Est-ce que le pays a tiré les leçons de cette tragédie, Nyaka?
On n'a pas tiré les leçons de cette tragédie. Les problèmes sont toujours là, les problèmes que la Côte d'Ivoire vit. Et puis, il n'y a pas eu 3 000 morts, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts avec les bombardements des Français pendant plus d'une semaine. Et puis, voilà, donc on est encore en pleine crise, c'est un autre épisode de la crise ivoirienne. Et on espère que cette fois-ci, quand M. Ouattara sera parti, les Ivoiriens pourront bâtir un nouveau contrat social sur la base d'un consensus et des valeurs qui sont fondamentales à notre société pour bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle.
Ambassadeur Bamba.
Oui, moi je pense que nous avons tiré des leçons, mais c'est M. Ouattara qui n'a pas tiré des leçons. Parce que j'avais pour preuve, il a boycotté, saboté la réconciliation nationale. Il n'a jamais voulu la réconciliation nationale. Alors que la première leçon, c'est justement plus jamais ça. Ça passe donc par une réconciliation nationale. Il n'a pas voulu. Il a boycotté le travail de M. le Premier ministre Bani, président de la PDVR. Deuxième chose, après avoir sécurisé son deuxième mandat, il a initié un démantèlement systématique de la démocratie en Côte d'Ivoire et de l'État des droits. C'est lui qui n'a pas tiré justement. Sinon, les Ivoiriens sont épris de paix. C'est un peuple de paix. Après avoir connu cette guerre, la guerre civile en 2010-2011, nous étions décidés à reprendre notre tissu social et la cohésion nationale. Mais celui qui a fait la paix, au lieu d'être le leader, d'être le moteur de cette réconciliation, il en a été le centre. Et ça, c'est dommage. Et c'est lui qui est le problème aujourd'hui encore.
Merci, ambassadeur Bamba Youssoufou Joseph, pour votre participation dans cette émission. Merci également à Jean-Claude Jereke, Yaka Lagoke, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Eric Mandakiza était avec vous à la présentation. La mise en onde était assurée par Lionel Lunanira Gahiba. C'est la fin de l'Amérique et vous de ce soir. À la prochaine.